Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au menu de Religion du Monde, à une semaine du premier tour des présidentielles, nous n'aborderons pas ce rendez-vous électoral majeur sous l'angle du vote confessionnel, mais ferons un pas de côté avec notre invité Samuel Pruvot, qui a demandé à 9 candidats ce que représentait pour eux la figure de Jésus. Puis toujours en lien avec les présidentielles, nous recevons Anne Welles, professeure de philosophie, qui co-signe aux éditions du Seuil « La communion qui vient », carnet politique d'une jeunesse catholique. Et en ce deuxième jour du mois du Ramadan, Anan Benrouma, rédactrice en chef du quotidien en ligne Sefir News, évoquera les difficultés de ce Ramadan 2022 avec la hausse du prix de l'énergie suite à la guerre en Ukraine. Qu'évoque pour vous Jésus ? C'est la question que Samuel Pruvot a posée à 9 candidats à l'élection présidentielle pour le hors-série du magazine trimestriel Mission. Samuel Pruvot, diplômé de Sciences Po Paris et rédacteur en chef à l'hebdomadaire Famille Chrétienne, et s'intéresse depuis longtemps au rapport qu'entretiennent ou non les chefs de l'État à la question de la transcendance. Il a notamment publié « Le mystère Sarkozy », François Hollande, Dieu et la République, et son dernier livre, Conversation avec le président, aux éditions du Cerf, relate ces deux conversations qu'il a eues avec le président Macron en 2017 et en décembre 2021. Bonjour Samuel Pruvot.
Bonjour Geneviève.
Alors commençons par ce hors-série. 9 candidats qui acceptent de répondre. Il en manque 3. Normalement, ils sont 12, hein, 12 comme les apôtres, j'allais dire. Pourquoi les 3 n'ont pas répondu, n'ont pas voulu répondre ?
Alors, il y a peut-être des torts partagés. Les 3 qui manquent, en fait, sont plutôt à la gauche de la gauche dans l'échiquier politique. Il s'agit de Poutou, Artaud et Roussel. En fait,
Roussel, donc, le Parti communiste.
Et du coup, on avait, pour vous dire la vérité, on n'avait pas encore la question des 500 signatures. Du coup, on n'avait pas sollicité Poutou. Donc, ça serait vraiment méchant de notre part et malhonnête de lui jeter la pierre. En revanche, on a sollicité les deux autres à plusieurs reprises, notamment Fabien Roussel. Et alors, cordial, jamais eu de refus, mais au final ça s'est pas fait. Je crois, et je le regrette profondément, qu'il y a peut-être un reste d'un anticléricalisme d'un autre âge, peut-être d'un autre siècle, anticléricalisme qui n'est plus le fait des autres candidats, quelle que soit leur sensibilité politique.
Alors, on va tourner les pages avec vous, Samuel Pruvot, et effectivement connaître le rapport à Jésus des 9 candidats. On commence dans un ordre alphabétique.
Et voilà, parce que on ne voulait pas surtout mettre un ordre de préférence, de choix ou de valeur. Et on s'est dit, finalement, l'alphabet va nous sauver. Donc, on a mis Zemmour en dernier. Alors, ça ne veut pas dire que les derniers seront les premiers, hein, pour prendre l'évangile. Ce n'est que l'alphabet.
Ce n'est que l'alphabet. Et alors, il faut signaler que chaque candidat a sa couleur. Ça,
oui,
c'est intéressant.
Oui, parce qu'on voulait aussi avoir un code couleur pour que les lecteurs s'y retrouvent très vite. Alors, on a un magnifique vert, évidemment, pour Yannick Jadot. Et puis, par exemple, on a un jaune pétard pour Jean Lassalle, parce que ça évoque les Pyrénées ensoleillées. Et puis, enfin, par exemple, on a un rouge cerise, voire sanguin, pour Jean-Luc Mélenchon. Où l'illustrateur, avec quand même malice, dessine le petit Jean-Luc Mélenchon quand il était enfant de cœur.
Et qu'il tire malicieusement
les cloches.
Les cloches, voilà. Oui, parce qu'il faut signaler qu'il y a un certain humour dans ce hors-série,
oui,
grâce précisément aux illustrations.
Alors, vous avez tout à fait raison, on a voulu que ces illustrations apportent un petit peu de recul et d'humour. En fait, la plupart des candidats ont répondu justement avec une certaine largesse d'esprit qui faisait qu'on ne sentait aucune contrainte de leur part et aucune gêne. Et je pense que c'est une des choses peut-être notables au-delà de ce que les candidats ont dit. C'est une absence de gêne pour parler de cette figure de Jésus. Bien sûr, la figure historique, on leur demande pas la foi, évidemment, à ces candidats. Mais comme si, finalement, un problème très ancien s'en était allé. Et ça, je pense que c'est un enseignement que les politologues vont pouvoir mettre dans leur colonne en 2022. Parler de Jésus-Christ n'est pas un gros mot.
Comment vous l'expliquez, Samuel Pruvot ?
Alors, je pense que c'est une question difficile. Je n'ai pas la réponse en entier, mais à l'heure où je vous parle, je me dis que les repères sont tellement bousculés, que les partis eux-mêmes sont tellement bousculés, que certaines convenances du passé, qui faisait partie de l'affrontement droite-gauche, eh bien ces convenances ou ces codes qui étaient finalement assez artificiels ont sauté. Et du coup, je pense que les candidats se sont dit, quelle est la raison profonde qui m'empêcherait de ne pas répondre à cette question ? Eh bien, ces raisons, elles ont disparu. Sauf, j'allais dire, c'est un peu méchant de ma part, hein, sauf chez quelques archéos, donc à la gauche de la gauche, qui pensent en fait qu'on en est toujours à Jules Ferry. Et de fait, on n'en est plus du tout à Jules Ferry.
Alors, on ouvre avec Nicolas Dupont-Aignan, qui se représente une nouvelle fois à l'élection présidentielle. On se souvient qu'au second tour du dernier scrutin, il avait soutenu Marine Le Pen. C'est donc un souverainiste. Alors pour lui, Jésus, c'est celui qui sauve l'homme. Bon, c'est assez classique. Là, il fait effectivement allusion à cette société romaine où il y avait des esclaves.
Ça, c'est beaucoup plus original.
J'ai ça, c'est que... absolument. Voilà. C'est pour ça que je le relève.
Ça, j'ai trouvé effectivement que c'est...
On ne lit pas assez, d'ailleurs.
Voilà. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, il a une approche d'agnostique, hein, mais il est bluffé, en fait. Sinon par Jésus, au moins par les premiers apôtres. Il se dit finalement, comment ces hommes qui étaient un culte et qui n'avaient pas de relais de pouvoir, comment est-ce qu'ils ont pu diffuser aussi vite un tel message dans tout l'Empire romain ? Et sa réponse, elle est quand même intéressante, c'est autour de l'égalité, en disant que cette égalité fondamentale, non seulement l'égalité homme-femme, mais l'égalité devant la mort, l'égalité devant la vie éternelle, c'est un message très puissant et incandescent qui a permis au christianisme de se diffuser comme une traînée de poudre. Et j'ai trouvé que cette réflexion était assez juste et assez intéressante. Et du coup, on voit bien que Nicolas Dupont-Aignan, et c'est son droit, il reste sur le seuil. C'est-à-dire qu'on voit manifestement qu'il y a une grande admiration pour le message de Jésus, mais que lui, à l'endroit où il se trouve personnellement, il ne peut pas se laisser embarquer, même si en soi, il ne serait pas contre.
Oui, effectivement, on sent qu'il se retient. Alors, il se définit comme un croyant qui doute et un agnostique qui croit.
Oui, oui, et c'est pour ça que la frontière est ténue. Hein. Et d'ailleurs, entre nous, ce n'est pas tellement ce qu'on lui demandait, d'ailleurs, une profession de foi. On lui demandait ce que lui inspirait Jésus. Et pour le coup, lui a répondu sur le fond. Et je remarque que les autres candidats aussi ont répondu sur le fond, ce qui est quand même assez bluffant dans une période où, et je le comprends aisément, on a tendance à jeter tout de suite la pierre sur tous les candidats, sauf peut-être le nôtre, et encore. Et finalement, là, les candidats sortent grandis de cet exercice.
Tout à fait. Alors, la maire de Paris, Anne Hidalgo, surprenant finalement.
Alors, pour vous dire la vérité, donc, je pense que c'est elle qui m'a le plus bluffé. Je pensais, un, qu'elle n'accepterait pas de répondre.
Oui.
Et finalement, elle a accepté. Alors, elle avait des questions, nos contraintes d'agenda, mais on a réussi à se parler. Et ensuite, quand elle parle de Jésus, elle aurait pu parler d'une vague référence au nom de l'humanisme ou de valeurs universelles. Et en fait, le fond de son propos, c'est de dire sa fascination et son effroi sur la façon dont Jésus est mort. Et donc, elle décrit la passion avec des détails très éloquents, surtout que...
Dans cette période, effectivement,
Pascal. Oui, nous ne sommes
Pascal,
pas très loin de la fête de Pâques. Et on se dit, c'est étonnant qu'elle ait compris que dans cette vie de Jésus, finalement, le plus important, c'est la fin de sa vie. Et elle ajoute elle-même que ce qui l'impressionne, c'est la manière dont Jésus est mort. Et elle ajoute une conclusion politique qui, pour moi, est mystique. Elle dit finalement, la vie de Jésus est un échec avec cette mort ignoble. Mais c'est un drôle d'échec, puisque 2000 ans après, on en parle toujours.
Alors moi, ce que j'ai retenu dans ses propos, hein, dans les propos de la candidate du Parti socialiste, Samuel Pruvot, c'est quand elle dit que Jésus, finalement, a dû affronter la haine, les invectives, bien sûr, et on sent qu'elle pense un peu à elle.
Ah non, mais là, moi, je l'ai entendu en direct, elle pensait vraiment à elle, et j'avais l'impression, quand elle parlait, que Jésus était un peu un... entre guillemets, un soutien, pas un soutien politique, mais en se disant finalement...
Je ne suis pas toute seule, c'est ça ?
Voilà, je ne suis pas tout seul. Et sincèrement, cette violence dont elle se dit victime, je pense qu'elle est, malheureusement assez vraie. Et que tous les candidats, sans exception, sur les réseaux sociaux et ailleurs, font l'expérience quand même de la violence du débat public.
Mais elle parle d'Internet, oui.
Voilà.
Elle le dit qu'elle est agnostique et reconnaît que la spiritualité est absolument indispensable.
Oui, alors ça, c'est un peu comme Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire que j'oserais dire, en fait, elle fait partie un peu de ces incroyants malheureux. Parce qu'il y a des incroyants, entre guillemets, satisfaits ou inconscients. Elle n'est ni satisfaite ni inconsciente. Elle aimerait éventuellement aller plus loin, mais pour plein de raisons, ce n'est pas possible pour l'instant.
Et elle reconnaît que sans l'espérance, eh bien, le monde serait invivable.
Oui, et c'est une belle formule. Et on a l'impression qu'elle le dit aussi pour elle-même. Hein. Elle le dit pour elle-même, c'est-à-dire qu'elle remercie un peu les croyants. En l'occurrence, je pense que ça va au-delà des catholiques. Elle remercie les croyants de donner une perspective ultime. et qui, selon elle, sans perspective ultime, justement ce monde complètement horizontalisé devient un monde invivable. Et je trouve que c'est une très belle formule.
Alors, Yannick Jadot, on le disait, une couverture verte, une éolienne. Yannick Jadot, donc candidat d'Europe Écologie Les Verts, pour lui, Jésus serait écolo aujourd'hui. Ça, il fallait s'y attendre. Hein.
Alors ça, oui, c'est une formule assez facile, ouais. Qui d'ailleurs peut être défendue. Je précise juste aux auditeurs que quand on posait ces questions, ce n'étaient pas des questions posées à l'avance. Je disais au staff, il y aura une question bonus. Du coup, à chaque fois, c'est de l'impro. Hein. Et l'improvisation de Yannick Jadot est déconcertante puisqu'il dit finalement, ce que j'admire en Jésus, c'est d'abord sa radicalité. Et moi, je crois, Yannick Jadot, qu'il n'y a pas de politique sans radicalité, sans engagement total. Mais précise Yannick Jadot, et je trouve que c'est quand même très vrai, le problème de la radicalité en politique, c'est que ça mène tout de suite à la violence, à l'invective. Alors, il critique évidemment la droite de la droite, mais il critique aussi les écologistes et la gauche de la gauche. Et il termine en disant, finalement, Jésus est admirable parce que c'est une radicalité qui rassemble. Et c'est tellement ce que moi, je voudrais faire. Et là, sincèrement, j'ai trouvé qu'il était, je ne sais pas où il a pris ses cours de cathé, mais c'était encore mieux que le catéchisme. C'est une intuition tout à fait vraie et géniale, enfin, vue du moins par rapport à une grille de lecture chrétienne et catholique.
Et il est issu d'une famille catholique.
Oui, c'est vrai, il est de culture catholique.
De culture catholique.
Mais il a quand même lâché l'affaire, quand même, à mon avis, depuis l'adolescence. Mais manifestement, au-delà de ça, on ne peut pas dire qu'il n'a pas compris en profondeur ce qu'était le christianisme et le message de Jésus.
Alors, on va dans les Pyrénées avec Jean Lassalle.
Alors, on rigole toujours avec Jean Lassalle.
Avec Jean Lassalle, on rigole toujours.
Mais donc, avec des choses sérieuses, quoi.
Oui, absolument. Jean Lassalle, donc député de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Il est quand même étonnant. Jésus, c'est mon petit frère.
Oui, alors au départ, je pensais que c'était une blague parce qu'il aurait pu dire Jésus, c'est mon grand frère. Et en fait, vous savez, il est très paternaliste au bon sens du terme, ce Jean Lassalle. Et lui, en gros, il dit... Moi, j'admire Jésus parce qu'il fait plein de bêtises et il se met en danger. Et moi, Jésus, j'ai envie de lui dire, t'inquiète pas, toi, t'es mon petit frère, je vais te protéger. Parce que sinon, dans la cour, tu vas te faire casser la figure. Tu es tout le temps à vouloir réconcilier des gens, tout le temps à faire des choses impossibles. Ça part d'un bon sentiment, mais tu vas mal finir. Et il précise, d'ailleurs, sa vie a mal fini, puisque justement, il a été crucifié, mais entre guillemets, il l'a bien cherché, parce que Jésus ne s'est pas épargné. Et j'ai trouvé là aussi que c'était un regard plein de tendresse avec l'idée qu'il fallait... peut-être même défendre Jésus lui-même. Et il dit à un moment donné, et je pense que là, Jean Lassalle parle de lui-même, ce que j'aime beaucoup chez Jésus, c'est qu'il n'a pas du tout de stratégie. Il fait quelque chose, on a l'impression qu'il fait n'importe quoi. Parce qu'effectivement, la passion, c'est n'importe quoi. Et il dit à la fin, c'est peut-être une suprême vérité. On se moque de Jésus parce que ça semble n'importe quoi, sa passion. Mais au final, c'est quand même un trésor inestimable et qu'aucune note... de politique aurait pu inventer et même McKinsey avec tous ses spécialistes payés trois fois plus et 15 milliards, il n'aurait jamais pu inventer la rédemption.
Il se définit comme perché très clairement.
Oui, oui il l'assume.
Hein. Il l'assume très bien. Oui. Et quelque part, dans l'aventure Jésus, il y a aussi une sorte de folie, oui. En quelque sorte, dans laquelle il se retrouve.
Oui, et donc du coup, c'est pour ça qu'il peut dire « Jésus, c'est mon petit frère et il va trop loin ». C'est parce qu'il parle aussi de lui-même en disant bah, « moi aussi, je vais trop loin, je prends des risques ». En apparence, ça va mal finir, mais il y a peut-être une sagesse cachée et supérieure bah, dans ma démarche.
Jean-Luc Mélenchon.
Égal à lui-même.
Égal à lui-même, qui se présente sous l'étiquette, bien sûr, de la France insoumise. « Le curé avait dit ma mère, vous n'en tirez rien, c'est un révolté ».
Oui, c'est ça. En fait, il évoque avec tendresse, ce mot est pas surjoué, son enfance où il était enfant de cœur et il regardait un peu partout et surtout pas vers l'autel. Et donc, il regardait vers le plafond. Ce plafond était une coupole. Sur cette coupole, on avait dessiné ou peint Dieu le Père avec une très longue barbe et puis il était archi vieux. Et du coup, on voit ce Jean-Luc Mélenchon enfant de cœur qui regarde Dieu le Père et qui se demande est-ce que vraiment il y a un Dieu au-dessus de ma tête et est-ce qu'il est aussi vieux, peut-être qu'il va mourir dans les années qui viennent, etc. Donc ça, je trouve ça très drôle. Et là où on retrouve aussi Jean-Luc Mélenchon authentique, j'allais dire c'est le Jean-Luc Mélenchon révolutionnaire. Et donc il va chercher chez Jésus ce qui peut aller dans le sens d'une révolution.
Enfin, d'une subversion.
D'une subversion. Ouais. Et il faut avouer qu'il pousse le bouchon, mais pas tellement, parce que ce qui me plaît chez Jésus, c'est qu'en gros, il tacle les pharisiens, il donne un coup de pied dans la fourmilière de l'ordre établi, mais tous les versets que Jean-Luc Mélenchon cite, tous ces mots très forts, parfois, il faut le dire, quand même plein d'acrimonie de Jésus, c'est pas juste un chewing-gum à la fraise, hein. Eh bien, ces versets existent. Et puis, la petite délicatesse chez Jean-Luc Mélenchon, et la délicatesse, enfin moi d'habitude je ne l'associe pas à Jean-Luc Mélenchon, il dit bon, je sais bien, je pousse un peu, parce que c'est trop facile de relire la figure de Jésus en piquant tel ou tel verset, et vous me pardonnerez. Et du coup en plus il est même intelligent parce qu'il dit bon ben je sais bien que j'insiste un peu trop sur ça, mais c'est quand même un peu vrai, n'est-ce pas? Et du coup là aussi Jean-Luc Mélenchon il répond à la question, et je dis bravo parce que c'était pas du tout gagné d'avance.
Plus classique, j'allais dire, Valérie Pécresse, plus sur la réserve aussi. On sait qu'elle est de culture catholique et on voudrait qu'elle voudrait en tous les cas ne pas apparaître comme une catholique engagée. Oui, puisqu'elle dit tout de suite, la candidate en LR dit tout de suite, moi je suis laïque, je suis vraiment laïcité pour moi, c'est ce qui prime.
Et c'est très curieux.
Sur la défensive quand même.
Elle est effectivement au départ sur la défensive, ouais. Et parmi les 9 candidats qui ont répondu, c'est elle, j'allais dire, la plus catholique, au moins du point de vue sociologique, c'est indéniable. Et du coup, c'est vrai que d'abord, elle se défend, mais ensuite, il faut quand même, si on veut être honnête, dire qu'elle répond à la question. Et elle choisit en fait un geste de Jésus qui l'impressionne, et c'est le lavement des pieds. Alors on pourrait dire, oui, bon, c'est archi classique. Si vous permettez, pour la bonne bourgeoisie catholique, de dire qu'un modèle, c'est le maître qui prend la place de l'esclave, là même, Jean-Luc Mélenchon ne va pas aussi loin. Et du coup, je trouve qu'elle se rattrape dans sa réponse en disant que finalement, ce qui est pour elle, Valérie Pécresse, le plus admirable chez Jésus, c'est cette capacité de descente. Alors, techniquement, les chrétiens disent la kénose, c'est-à-dire l'abaissement, l'anéantissement. Et elle dit finalement, s'il y a un modèle en politique, ça devrait être cet anéantissement au service des autres. Pas un service, vous voyez, vague qu'on trouverait dans un dictionnaire ou chez Wikipédia. Un service qui va jusqu'à un anéantissement pour soi-même au profit des autres. Et là, sincèrement, je trouve que Valérie Pécresse, bah, entre guillemets, se rattrape, si tant est que c'était un examen à passer.
Tout à fait. Et elle précise bien, pour moi, la politique, c'est une mission.
Oui, et pour le coup, voyez, une fois qu'elle s'est défendue au départ, oui, en fait, sincèrement, elle se lâche et elle retrouve cette culture catholique, pour le coup, qui est la sienne pleinement.
D'engagement, et
elle a tous les codes. Alors, on pourrait dire qu'il fallait qu'elle dise encore plus, encore mieux. Enfin, sincèrement, je trouve plaque. Je fais juste la remarque qu'effectivement, pour un candidat de culture catholique, c'est plus dur de le dire. Et je trouve ça aussi à contre-courant et bizarre, puisque pour les autres, ça pose aucun problème. Donc pourquoi un catholique doit-il porter sa croix et s'en excuser? Moi, comme observateur, je ne me l'explique pas.
Alors, Marine Le Pen, donc la présidente du Rassemblement National...
Alors, elle crève un peu l'écran. Hein.
Oui, on est assez surpris, à vrai dire. En somme, elle, c'est une catholique, on va dire, culturelle,
oui,
mais qui a pris de la distance par rapport à l'institution parce qu'elle a été blessée. Mère de famille, enfin, mère de 3 enfants, séparée du père de ses enfants. Elle s'est vécue manifestement comme rejetée à un moment donné.
Oui, indéniablement. Comme son père, d'ailleurs. Hein.
Et comme son père, absolument. Mmh. Son père pour des raisons politiques.
Oui. Mais rejetée aussi par l'institution Église.
Voilà. Et que du coup, voilà, maintenant, elle reste en réserve, mais... Très clairement, elle a la foi.
Ah ben, indéniablement. Par exemple, elle a tout de suite dit... Alors, c'est un élément qu'elle a plusieurs fois répété, mais elle a tout de suite dit que dès que ses enfants sont nés, pour elle, sa première réaction, quasiment instinctive, maternelle dans ses tripes, c'était de donner ses enfants, alors là, je la cite, à la Vierge Marie. On se dit, mais c'est archi classique. Je veux dire, il faudrait que ça soit des lecteurs quasiment de famille chrétienne pour faire ça. Enfin. Et elle l'a fait, et je pense que ce n'est pas du tout bidon. Et par ailleurs, quand on lui demande si une parole ou un geste de Jésus l'impressionne en particulier, tout de suite, sans réfléchir, elle pense à la Samaritaine, et donc un peu à la femme de mauvaise vie, que Jésus va chercher, que Jésus ne méprise pas. Et elle ajoute avec une pointe d'amertume, c'est quand même étonnant que les catholiques les plus motivés dans ce pays mettent toujours en avant le jugement vis-à-vis d'autrui et très peu le pardon, qui selon Marine Le Pen, et elle n'a quand même pas entièrement tort sur ce point, et non pas le pardon qui est quand même le grand trésor que Jésus apporte à l'humanité. Non seulement le pardon des ennemis, mais le pardon pour les pécheurs. Et c'est vrai, je rappelle ici, sans faire une prédication, mais quand même une des paroles les plus déconcertantes de Jésus, c'est « Je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé, mais les gens malades ». Et quand on lit le témoignage de Marine Le Pen, on se dit, elle se reconnaît cabossée et malade, et elle se dit, finalement, je suis peut-être une bonne cliente pour Jésus.
Alors, le dernier, dans l'ordre alphabétique, Éric Zemmour. Éric Zemmour, donc, né dans une famille juive pratiquante, qui va s'exprimer sur Jésus. Et ce que dit, moi, ce que j'ai retenu, c'est l'analyse de ses propos par Guillaume de Tellois, qui dit, en définitive, le roman national fait aimer à Éric Zemmour le christianisme.
Oui, parce qu'en fait, chez Éric Zemmour, alors, il cite André Suarez, un auteur juif des années 30. Voilà ce que dit Suarez et qui, pour Zemmour, est un modèle. Qu'il aille ou non à l'église, le français a les évangiles dans le sang. Alors on se dit, oui, mais ça c'est encore de la culture à la Zemmour qui aime bien citer tous ces philosophes. Non, pour Éric Zemmour, c'est énorme parce qu'il assume complètement sa culture juive, sa foi juive. Il va à la synagogue, Éric Zemmour, et il dit finalement, je suis patriote, donc je suis français, et on ne peut pas être français sans faire l'économie du catholicisme. Et je crois qu'on ne l'a pas mis dans le hors-série parce que c'était peut-être un peu trop perso. Il ajoute, vous savez, Monsieur Prévost, je ne suis pas converti. Pourquoi a-t-il ajouté ça? Mais parce qu'en fait, sa démarche sur ce point me semble très authentique. Il se dit, on ne peut pas être français sans être d'une certaine manière catholique ou d'une certaine manière réconcilié avec l'Église. Et je trouve que c'est un bel aveu.
J'ai volontairement gardé Samuel Prévost pour la fin, le président candidat Emmanuel Macron, parce que vous avez également écrit un livre suite aux deux conversations que vous avez eues au début de son quinquennat et à la fin de son quinquennat. Donc, ces deux conversations sont relatées dans votre livre « Conversations avec le président sur les dieux, la France et la République » publié aux éditions du CERF. On retrouve ces conversations effectivement dans le hors-série de Mission. Alors, très clairement, Emmanuel Macron n'a pas de problème avec la transcendance. Contrairement, il peut s'exprimer là-dessus. Au contraire, la question de la transcendance l'a toujours habité. Il le dit, contrairement à son prédécesseur, François Hollande, que
Exactement.
Vous aviez interviewé sur le sujet. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a voulu se positionner en rupture, très
oui.
clairement, par rapport au précédent quinquennat.
Ouais. Et moi, ça m'a étonné parce que, justement, dans les entretiens, il s'est tout de suite positionné contre François Hollande. Alors, politiquement, c'est une évidence. Mais sur ce point, en substance, il disait « Je ne partage pas cette sorte de glaciation entre la République et l'Église catholique. Et pour moi, il n'y a aucune raison de se regarder, entre guillemets, en chien de faïence. » Et au contraire, et ça, c'est l'histoire de Macron. Et puis après, c'est déconvenu à Emmanuel Macron durant son quinquennat. Et au contraire, je ne sais pas si vous vous souvenez, le discours des Bernardins, donc, qui s'adressait aux catholiques, il avait une formule qui avait été décriée, qui était très très forte. Il disait qu'il fallait réparer ce lien entre. Le,
ouais.
et à l'époque, d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon avait fait un tweet en disant mais c'est honteux, ce n'est pas le rôle d'un président de réparer quoi que ce soit. C'est le régime de séparation. Et donc, quand on est séparé et quand on.
C'est ça, oui, réparer le lien entre la République
et l'Église catholique.
Ouais.
Et du coup, c'est quand même la direction qu'il voulait prendre, qu'il a voulu prendre lors de ce quinquennat.
Alors, quelques mots sur son parcours métaphysique, j'allais dire. Il a grandi dans une famille qui n'était pas du tout pratiquante, absolument pas une famille,
je confirme.
Famille laïque.
Il dit 68arde.
68arde, voilà.
On dirait bobo aujourd'hui.
Et à 12-13 ans, il fait le choix du baptême. Bon,
contre l'avis de son père.
Contre l'avis de son père. Bien sûr, il a fait sa scolarité, on le sait, au collège-lycée
chez
les Jésuites de la Providence, donc à Amiens. Bon, après, il va prendre ses distances par rapport à l'institution, quelques années après son baptême. Mais la question de la transcendance, le travail, elle est centrale.
Oui, incontestablement. Alors, d'une part, parce que c'est un président philosophe, donc la question de la transcendance, effectivement, c'est quelque chose qui est quasi quotidien pour lui, contrairement justement à son prédécesseur, François Hollande. En revanche, ce qui est difficile pour Emmanuel Macron, c'est justement de répondre à la question des origines, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Parce que là, à ce moment-là, c'est moins philosophique, c'est plus historique, c'est plus incarné et c'est surtout plus intime. Et Emmanuel Macron est sans doute quelqu'un qui se d'une archi-pudeur, et du coup, il est impossible.
Il est secret.
Il est tout à fait secret, ce qui est le propre des hommes d'État, mais lui peut-être plus que tous les autres. Et donc il y a un sanctuaire dans lequel on ne peut pas rentrer. Et de savoir finalement ce qui reste de cet élan du baptême, à l'adolescence, donc ce n'est pas du tout quelque chose de nul et non avenu, eh bien c'est très difficile à dire. Moi, je suis persuadé qu'il en reste quelque chose, mais c'est vraiment bien difficile à mesurer.
Et puis, il a son contact, son amitié avec le philosophe chrétien protestant Paul Ricoeur. Il y a ses lectures, Bernanos, Peggy, Claudel.
Oui, qui sont vraiment, là aussi, je pense qu'on peut mettre en doute la parole des politiques, ou même on doit le faire. Mais quand Emmanuel Macron dit qu'il a apprécié Claudel, Bernanos, je pense que ça ne sert vraiment à rien de lui lancer la pierre, parce que c'est tout simplement vrai, quoi.
Alors, votre livre, Samuel Pruvot, donc « Converser ensemble avec le président », c'est aussi un grand bilan d'Emmanuel Macron face aux religions. Pas facile, ce quinquennat, pas facile du tout, parce qu'il y a eu effectivement des événements qui ont bousculé, j'allais dire, son agenda. Hein. C'est très clair.
Parce que vous savez, il est parti, j'allais dire presque la fleur au fusil, au nom de la liberté religieuse, mais il a dû affronter quelque chose d'inédit. D'abord, cette pandémie, et donc une restriction évidente de la liberté religieuse, mais aussi la poursuite terrible de l'islamisme, et notamment le meurtre ignoble de Samuel Paty, cet enseignant donc égorgé. Du coup, on comprend qu'Emmanuel Macron, entre ce qu'il voulait faire et ce qu'il a fait, il s'est confronté à la dureté du pouvoir et à la dureté de l'actualité.
C'est ça, effectivement, d'où la loi contre le séparatisme qui lui vaudra la critique de catholiques qui disent, voilà, nous, on n'a pas à faire les frais, effectivement, de ce combat contre l'islamisme.
Et d'ailleurs, j'allais dire, critique unanime, y compris dans le monde musulman, parce que la très grande majorité des musulmans en France sont des croyants pacifiques, donc ils ne comprennent pas, si vous permettez cette expression, ce flicage des croyants en France.
Alors, on terminera sur cette phrase de Peggy qui l'a fait sienne.
Tout commence en mystique et puis tout finit malheureusement en politique. Alors du coup, c'est vrai que c'est un petit peu cruel pour Emmanuel Macron, mais je voulais juste évoquer d'un seul mot une autre phrase qui est celle de Marcel Gaucher, qui disait que finalement, en Occident, nous étions sortis de la religion. Et c'est très vrai pour Emmanuel Macron, puisque lui n'était pas dans la religion. Il y est rentré par son baptême et les circonstances de sa vie font que pour l'instant, il en est sorti. Pas complètement, puisque cette transcendance continue de l'habiter, voire peut-être de le porter.
Merci Samuel Pruvot. Donc je rappelle, le hors-série Mission sur 9 candidats face à Jésus, et puis votre livre Conversation avec le Président sur les dieux, la France et la République aux éditions du CERF. Merci.
Merci beaucoup.
Ils sont trois trentenaires cathos, professeurs de philosophie, à vouloir vivre la radicalité de l'Évangile. Paul Colras, Foucault Giuliani et Anne Welles ont été ou sont encore membres des cafés Dorothy et Simone. Ce sont des cafés associatifs qui se trouvent à Paris et à Lyon et qui accueillent des croyants et des non-croyants. Et ils ont signé récemment un livre politique, La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique aux éditions du Seuil, qui est un réquisitoire en règle contre l'ordre établi et appelle à vivre la politique en se conformant à la radicalité du message évangélique. Anne Welles, bonjour.
Bonjour.
Ce trio, comment est-il né? Est-ce qu'il est né dans une paroisse, parce que vous parlez beaucoup de la paroisse dans votre livre, ou bien est-ce qu'il est né dans ces cafés associatifs?
Oui, il est né dans ces cafés associatifs. Foucault et Paul se sont rencontrés au Simone, donc il y a un café associatif chrétien à Lyon, qui entend organiser un espace autour de l'Évangile. Et Foucault et moi, on s'est rencontrés au Dorothy, qui est aussi un café associatif chrétien à Paris, qui entend articuler la réflexion, la prière, l'action sociale au service de tous dans le quartier, et puis aussi le travail manuel et intellectuel, enfin tout un tas de choses. Mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en condition pour vivre collectivement l'Évangile dans un quartier.
Alors, Dorothy, du nom de Dorothy Day, cette Américaine, née en 1897, morte en 1980, qui est la fondatrice d'un mouvement anarchiste chrétien, le Catholic Worker, c'est ça?
Oui, exactement.
Et qui a laissé toute une œuvre sociale, notamment à New York.
Oui, à New York, mais aux États-Unis, dans son ensemble. Et aussi, il y a pas mal de pays où il y a des communautés de Catholic Workers, notamment les pays anglo-saxons en Europe. Allemagne, Angleterre, Pays-Bas, etc. Et c'est des communautés de lieux de vie où voilà, les gens essayent de ensemble articuler d'un côté la prière et l'action politique, les conséquences politiques de l'évangile, mais aussi de travailler ensemble, de réfléchir ensemble. Et c'est une femme qui, avec toute cette communauté des Catholic Workers, a été engagée dans les grands combats politiques. En fait, elle a traversé le XXe siècle, donc dans les grands combats politiques du XXe, à partir de sa foi, notamment contre la guerre au Vietnam, pour les droits ouvriers dans les années 30, pour les mouvements des droits civiques aussi aux États-Unis, mais tout le temps en parlant de l'évangile. Et notamment, ils avaient un journal qui s'appelait le Catholic Worker, qu'ils distribuaient dans tous les piquets de grève, les mouvements sociaux de l'époque.
Et le pape François, lorsqu'il est allé aux États-Unis, je me souviens, a évoqué la figure de Dorothy Day.
Oui, vraiment, c'est une figure qu'il affectionne et qu'il a aussi reconfiée aux États-Unis comme voilà la figure aussi d'inspiration pour aujourd'hui, qui est une figure forte d'avoir voulu vivre l'évangile jusqu'au bout, à mon avis.
Alors, est-ce que vous vous définissez, est-ce que votre trio se définit comme Dorothy Day, comme un trio anarchiste, catho? Est-ce que vous êtes catho de gauche ou est-ce que comment vous définir?
On n'aime pas trop cette appellation
Oui,
catho de gauche parce que
j'ai compris,
c'est
oui.
plutôt qu'en fait, droite gauche, ça nous semble référer à un système de valeurs. À notre avis, c'est pas la manière la plus précise de parler des questions politiques, en termes notamment de rapports de production. Enfin, il y a d'autres choses qui nous semblent plus convaincantes, et aussi en termes de tradition, c'est-à-dire que pour nous, c'est plus intéressant de s'inscrire dans des traditions comme l'anarchisme, le communisme, le socialisme, etc., plutôt que de référer au clivage droite-gauche. Après, je sais pas si chacun d'entre nous, on se définirait de la même manière, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour nous, l'essentiel, c'est de prendre au sérieux l'évangile en tant qu'il a aussi des implications politiques et que c'est ça qui va déterminer les différents engagements qu'on va pouvoir avoir sur les questions politiques, en fait.
Effectivement, c'est une large critique notamment du capitalisme. Et vous reprochez d'ailleurs aux catholiques souvent de ne pas se soucier voilà, des fondements de l'injustice sociale, du dérèglement climatique. Enfin, vous balayez très large.
Oui, c'est ça, c'est que le capitalisme est en fait la structure qui va avoir tout un tas de conséquences. Il y a d'un côté certains catholiques qui vont être plus préoccupés par des questions morales, de consumérisme, etc., qui pour nous en fait sont voilà, des questions importantes, mais qui ne sont pas centrales aussi par rapport à la montée de l'injustice et par rapport à l'aliénation, notamment de la création et de travailleurs que peut mettre en place à grande échelle le capitalisme. Mais voilà, c'est aussi important de désigner les structures et de revenir à une analyse précise des structures économiques et politiques et pas seulement de flotter dans un discours moral qui va combattre le consumérisme ou l'injustice sans en analyser les causes.
Mais d'ailleurs, en lisant votre livre, Anne Welles, donc un livre à trois voix, moi, ça me faisait penser quand même aux années 70 avec les cathos marxistes. Hein, ça me faisait penser aussi à la théologie de la libération. Alors, est-ce que vous êtes une résurgence de ce mouvement?
La théologie de la libération nous intéresse, mais aussi d'autres sources théologiques. C'est vrai que la théologie de la libération nous intéresse, notamment ce qu'elle a mis au centre comme la préoccupation centrale dans l'évangile et pour les chrétiens de mettre au centre les pauvres, l'option préférentielle pour les pauvres, et les aliénés et ceux qui sont victimes d'injustice, etc. Mais aussi des principes comme la destination universelle des biens, tout en fait des principes qui ont été repris dans la doctrine sociale de l'Église et qui ne sont pas cantonnés à une certaine théologie qui serait marxiste ou voilà, c'est aussi une théologie qui est une théologie contextuelle, ancrée, qui essaye de faire vivre à partir de communautés précises données qui sont des communautés d'Amérique latine, l'évangile dans toutes les dimensions de l'existence de ces personnes-là. Et en fait, c'est aussi une théologie qui est une théologie vivante, qui est une pratique en fait avant d'être un ensemble de doctrines.
Est-ce que pour vous, le pape François, Anne Welles, eh bien, n'est pas encore assez à gauche?
Je suis gênée avec cette question par rapport à la question voilà, droite-gauche. Après, je pense qu'il y a des sujets qui sont parfois référés comme uniquement des sujets de droite qui, en tant que chrétien, nous intéressent aussi. Je pense à la question de la GPA notamment, mais des questions ou la question de l'euthanasie. Voilà, moi, je ne suis pas du tout convaincue, en tout cas, de cette question de droite-gauche. Je pense que le pape, en tout cas, met beaucoup au centre des questions chrétiennes, la question de l'accueil des migrants, l'accueil inconditionnel des migrants, la question de l'écologie, et que c'est vraiment deux questions politique centrale pour les chrétiens aujourd'hui.
Et pour vous, manifestement, effectivement, l'accueil inconditionnel des migrants, c'est une attitude évangélique quasiment obligatoire.
Oui, bah, pour moi, c'est très très clair dans la Bible qu'on est appelé à accueillir l'étranger et qu'on est appelé à sortir de nous-mêmes, qu'il n'y a pas de confort à être chrétien, mais au contraire, un appel incessant à nous mettre au service de nos frères qui souffrent le plus et à ne pas être dans une attitude de rejet. Donc pour moi, c'est vraiment évident que c'est quelque chose qu'on tire directement de l'évangile et qu'il n'y a pas de débat vraiment là-dessus si on veut lire sérieusement l'évangile.
Inconditionnel, ça veut dire des frontières totalement ouvertes?
Inconditionnel, ça veut dire qu'on accueille tout le monde. Alors après, la question de l'accueil...
Parce qu'accueillir, c'est aussi organiser après la suite.
Bien sûr, bien sûr.
C'est quand même pas tout
ça
simple.
Ça n'indique pas clairement quelle politique étatique il faut mener sur la question des frontières. C'est pas sur ça qu'on se centre. C'est une position morale, mais qui a aussi des conséquences politiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le fait qu'aujourd'hui, en fait, la France, par ses politiques, in fine, en fait, met à mort des étrangers et qu'en fait, il y a des gens qui meurent dans la Méditerranée, il y a des gens qui meurent à Calais tous les jours et qu'en fait, on en est collectivement responsable. Donc, je pense que la question, c'est pas uniquement est-ce qu'il faut ouvrir ou fermer les frontières, mais comment on fait pour que ça ne se reproduise pas.
Oui, mais est-ce que c'est pas aussi le mal développement des pays d'origine qui est d'abord à l'origine de la mort de ces migrants méditerranéens.
Bien sûr, il y a aussi des questions internationales, il y a aussi des questions qui sont liées aussi au modèle capitaliste occidental qu'on a importé dans ces pays-là. Donc en fait, on est aussi responsable en partie des causes. Il faut évidemment agir à plusieurs niveaux.
Alors, les élections présidentielles, comment vous allez vous positionner? Parce qu'il y a un passage vraiment là que j'ai bien noté dans votre livre, Anne Ouellet, sur... Déjà, la campagne présidentielle, vous écrivez, au cœur de la vie politique française est l'élection présidentielle. Ce spectacle, au fond, personne n'y croit plus, ne croit plus à ses promesses. Non pas le contenu des récits des candidats, mais leur forme. Les candidats racontent des histoires dont ils sont les héros. Ce sont des discours de sortie de crise, c'est-à-dire de salut. La crise est un obstacle, mais un obstacle que le candidat prétend être capable de dépasser grâce à une alliance nouée avec le peuple et symbolisée par le temps des urnes. Et certes, dès le lendemain de l'élection, l'idole sera reniée et les soutiens exaltés de la veille se mueront en féroces contempteurs. Voilà, alors, passer ce décrit, si je puis dire, ce spectacle, qu'est-ce que l'on fait?
Bien sûr, la première question, c'est de dire que...
Est-ce que c'est vraiment un spectacle déjà, vraiment?
Bah, en partie, oui. Le problème, c'est que...
Il n'y a pas de sincérité du tout.
C'est pas ça qu'on dit. C'est que, en fait, le problème, c'est cette mise en scène de un temps de crise qui va être... défini de manière très différente selon les hommes présidents ou les femmes présidentiables, mais vraiment cette définition du temps de crise qui est aussi au service d'une certaine instrumentalisation de ce qu'ils pourraient faire et d'une idée de leur pouvoir. Je veux dire que voilà, pour moi c'est évident que notamment le discours de Zemmour ou Marine Le Pen, mais aussi les discours de Macron, en fait, vont insister par exemple sur voilà, la crise c'est les migrants, en fait on va accentuer le moment de crise pour aussi accentuer cette dimension de sauveur de la nation, etc. Et c'est ça qu'on voulait premièrement noter, c'est-à-dire que pour, en tant que chrétien, il est un possible d'attendre un sauveur en politique qui nous sauverait, je ne sais pas de quel péril fantasmé.
Pour vous, le sauveur, c'est le Christ. Pour vous.
Le sauveur, c'est le Christ, premièrement. Et ça veut dire aussi que, en fait, il ne faut pas cristalliser en fait tous les enjeux politiques au moment de l'élection. C'est-à-dire que c'est vraiment une illusion que de penser que nous pouvons agir politiquement simplement. Enfin, notre voix ne compte qu'au moment des élections, alors que faire de la politique sérieusement, c'est donner sa parole, c'est penser collectivement et agir collectivement sur les structures d'organisation de la société en vue du bien commun et qu'on ne peut pas réduire la politique au moment du vote. Et c'est aussi ça qui va cristalliser cet enjeu de la question du salut à ce moment des élections et qu'il faut sortir en fait, de cette lecture-là et de cette réduction de la politique à la représentation électorale.
Votre vision radicale, j'allais dire, de la politique, hein, qui s'inscrit dans un christianisme tout autant radical, est-ce que ça vous empêche d'aller voter ou pas?
Non, pas du tout.
Vous allez voter?
Oui.
Vous êtes contre l'abstention? Ça vous choque, l'abstention?
Je ne suis pas contre. Je pense qu'il y a des vraies raisons et que les raisons sont aussi dans le fait qu'aujourd'hui, la majorité des citoyens n'agissent pas en tant que citoyens, n'ont pas de prise sur l'ordre du monde et que je comprends tout à fait ce désintérêt et ce dégoût, ce qui ne m'empêche pas de penser que c'est important d'aller voter, notamment parce qu'il y a des candidats aujourd'hui qui vont mettre à mal tout un tas de structures de justice dans notre société et qu'il est important de choisir le moindre mal.
Donc pour vous, c'est voter par défaut?
Oui.
Dernière question, Anne Ouellet, eh bien, porte sur le titre « La communion qui vient ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes tous appelés, qu'on le veuille ou non, à une forme de fraternité?
Ça signifie que la communion, c'est le principe de relation entre nous, oui, qui est un principe fraternel, qui est permis par Dieu quand il transforme nos relations dans l'histoire, mais aussi par la prière, et que ce principe de communion, il s'oppose à ce qu'on appelle le principe de communauté, qui est un principe en fait identitaire, qui va opposer nous au reste du monde, qui va opposer à l'intérieur de la communauté une certaine forme d'homogénéité et d'identité commune contre les autres. Et c'est aussi un principe en fait fondateur de beaucoup de logiques politiques, alors qu'en tant que chrétiens, nous sommes appelés à la communion, c'est-à-dire une forme d'amour et de charité, de fraternité universelle, qui vient complètement nous sortir de cette logique de l'identité, du nous contre eux, et de la communauté qui va en fait s'identifier aussi en niant les singularités et la liberté de chacun.
Je vous remercie. Donc, je rappelle le titre de votre livre, La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique, et c'est publié aux éditions du Seuil. Merci, Anne Welles.
Merci.
Ramadan 2022, c'est parti. Avec nous en ligne, Anane Benrouma, rédactrice en chef du quotidien en ligne du fait musulman, Saphir News. Saphir News qui publie en plus un trimestriel, Salam News, c'est la version magazine papier. Anane Benrouma, bonjour.
Bonjour.
Chaque Ramadan s'inscrit dans un temps social, politique, géopolitique, sanitaire. On l'a vu effectivement avec le Ramadan 2020 et 2021. Alors cette année, bien sûr, c'est la crise en Ukraine et ses conséquences sur le prix des matières premières qui va marquer ce Ramadan 2022.
Tout à fait. En fait, c'est un sujet qui va indéniablement en fait inviter au menu des discussions des tables du Ramadan, puisque en fait la guerre en Ukraine très clairement a fait la une de l'actualité, mais c'est tout particulièrement vraiment ses conséquences dans la vie quotidienne et pratique de nos concitoyens. Le conflit en fait russo-ukrainien a des répercussions concrètes sur le pouvoir d'achat des Français, avec la hausse des prix de l'énergie, des carburants, des matières premières et des denrées alimentaires. Et donc c'est un sujet auquel sont sensibles les ménages en ce moment, parce qu'il y a une certaine frénésie des achats qui accompagne souvent le mois du Ramadan. Et c'est une frénésie d'ailleurs qui est propice pour de nombreuses familles à une surconsommation. Quand bien même ce n'est pas vraiment en adéquation, je dirais, avec l'esprit spirituel et philosophique du Ramadan. Mais bon, ceci, c'est un autre débat. Ce que je veux dire, en tout cas, c'est que l'inflation aujourd'hui et la hausse des prix, elle perturbe les préparatifs du Ramadan et les pratiques, et elle devrait amener, en tout cas, des familles à revoir leurs habitudes.
Alors, voilà. Est-ce que ça n'est pas, d'une certaine façon, un bien pour un mal ? Est-ce que ça n'était pas excessif avant aussi ?
Effectivement, ça peut être vu de cette façon. Une façon aussi de réfléchir en fait sur la manière dont on vit le Ramadan. Malheureusement, c'est vrai que c'est un mois qui est certes propice à une surconsommation, mais qui dit surconsommation dit aussi gaspillage à outrance. Et ça, c'est aussi des habitudes qu'il faut à un moment donné empêcher qu'elles perdurent. Donc l'inflation, si elle peut être éventuellement une source de réflexion sur le sujet, pourquoi pas. Si les ménages, on va dire, revoient leur consommation, ce sera pour d'abord une question
d'économie,
de pouvoir d'achat et de niveau de vie avant tout.
Bien sûr, bien sûr. Alors, autre sujet, les élections présidentielles. Alors, on se pose toujours la question, à chaque élection, des votes confessionnels. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a, selon vous, un vote musulman ? Anane Benrouma.
Je dirais tout simplement que le vote musulman n'existe pas au sens d'un vote massif et organisé selon l'appartenance religieuse et communautaire. Si on doit parler d'un vote musulman, elle va se caractériser plutôt par le fait qu'il est plutôt éparpillé sur l'échiquier politique et aussi qu'il est marqué généralement par l'abstention. Donc voilà, on va dire, la façon dont on peut caractériser, je dirais, entre guillemets, et même entre gros guillemets, ce fameux vote musulman qui clairement en fait est davantage de l'ordre d'un fantasme dont certains candidats veulent faire vivre à tout prix plutôt qu'une réalité.
Voilà. Vous parlez d'abstention, vous avez un chiffre, Anane Benrouma, à nous donner sur cette abstention, ou bien c'est plutôt effectivement quelque chose qui est ressenti, j'allais dire?
Oui, tout à fait. En fait, je n'ai pas de chiffre en main, mais très clairement, en fait, c'est une réalité en fait qui aujourd'hui très prégnante en fait parmi un certain pan de la population. Voilà.
Est-ce qu'il y a une explication à cette désengagement du politique, Anane Benrouma?
Je dirais qu'il y a une désillusion quand même assez forte pour une partie de la population qui se voit à chaque fois faire face à des promesses de la part de candidats, mais qui ne sont jamais remplies ou pleinement remplies en fait par ces mêmes candidats une fois qu'ils accèdent au pouvoir. Je pense aussi qu'il y a un certain nombre de débats publics qui sont instrumentalisés par des candidats qui fait que très clairement ça ne donne pas envie en fait à des électeurs de vouloir voter. C'est vrai qu'en tout cas, si l'on parle très particulièrement, on va dire, de nos concitoyens de confession musulmane, clairement, de manière très générale, les campagnes présidentielles sont souvent marquées par des débats publics autour de la question islam qui sont anxiogènes, voire nauséabondes, parce que souvent, justement, instrumentalisées par des candidats. Je dois quand même dire, soit dit en passant, que la campagne 2022, en tout cas des dernières semaines, est tout de même la moins marquée des dernières décennies justement sur cette question islam, tout simplement parce que la guerre en Ukraine est venue faire la une de l'actualité. Évidemment, hein, c'est une actualité qui est tragique, mais le fait que l'on parle un peu moins quand même des questions islam au profit de questions qui sont autrement plus importantes n'est pas pour déplaire aux musulmans de France.
Dernière question, Hanan Benrouma, concernant le dossier de Salam News sur le Forum de l'Islam de France, donc forum lancé le 5 février dernier au Conseil économique, social et environnemental. Dans ce numéro, Mohamed Collin, cofondateur du magazine Salam News et de Saphir News, et vous, tous les deux, vous soulignez que le FORIF, qui enterre le Conseil français du culte musulman, eh bien, inaugure un nouveau modèle de dialogue entre l'islam et l'État. Vous semblez tous les deux très optimiste.
Le FORIF en fait vient aussi rompre un certain logiciel en fait, puisqu'il se pose en fait clairement comme une réponse à un échec patent qui est celui du Conseil français du culte musulman, du CFCM, qui ne pouvait plus perdurer en l'état après 20 ans d'une existence qui a été émaillée quand même de crises, de querelles entre fédérations et qui ont clairement empêché l'avancée de dossiers structurants pour l'islam de France. Et le FORIF en fait aujourd'hui vient poser, on va dire, de nouvelles bases pour cette restructuration en permettant à ce que ce soit des acteurs locaux qui sont fortes d'une légitimité sur un certain nombre de dossiers, de pouvoir avoir aussi leur mot à dire sur ces dossiers-là qui ne doivent plus traîner plus longtemps. Il en va tout simplement en fait de l'organisation du culte musulman, mais également des bonnes gestions des relations en fait entre l'État et les musulmans.
Donc en fait, c'est une décentralisation de la gestion de l'islam de France et puis aussi une forme d'affranchissement des tutelles étrangères, c'est-à-dire le Maroc, l'Algérie notamment.
C'est très clairement conçu comme cela, comme un affranchissement justement de l'islam dit consulaire. Elle se veut calquer sur un modèle existant en Europe, qui est le modèle allemand, mais dont on ne sait pas finalement quel sera l'avenir et si l'initiative marchera. Donc on verra si le FORIF saura répondre aux défis. Il faudra attendre à minima quelques mois pour voir en fait comment les groupes de travail avancent. Et très clairement aujourd'hui, en fait, le succès dépendra des participants de ce FORIF.
C'est ce que disait Gérald Darmanin dans le numéro de Salam News, dans l'interview, il a répondu effectivement à Mohamed Collin, que si les musulmans s'organisent, ce n'est pas seulement le ciel, mais c'est l'État qui les aidera.
C'est ça, très clairement. Donc le ministre de l'Intérieur a présenté cette initiative du FORIF comme un ballon d'essai. Bon, on va laisser donc ce ballon d'essai faire son bout de chemin et on verra au bout du compte si elle portera ses fruits.
Je vous remercie, Hanan Benrouma. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Saphir News, le quotidien en ligne du fait musulman. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delerue, Ludivine Amadou vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.